Bien, merci. Nous allons passer désormais à l'entretien.
Oui, j'ai choisi de vous présenter le roman Les liaisons dangereuses de Chauderlos de Laclos. Alors, en 1782, à la veille de la Révolution française, l'officier de carrière Pierre Chauderlos de Laclos publie son roman épistolaire Les liaisons dangereuses. Cette œuvre est l'unique roman de Laclos, puisqu'il n'était pas romancier de métier et qu'il s'est consacré à l'écriture plutôt par ennui lors d'une de ses missions militaires. Ce roman met en scène, au cœur de l'intrigue, deux libertins, le vicomte de Valmont d'une part et la marquise de Merteuil d'autre part, qui s'échangent de nombreuses lettres où ils se font part de l'avancée de toutes leurs conquêtes amoureuses. L'intrigue principale consiste en ce récit de la vengeance de Merteuil contre l'un de ses anciens amants qui espère épouser une toute jeune fille, vierge, Cécile de Volanges. Merteuil, pour cela, fait donc appel à son ami libertin Valmont pour qu'il pervertisse la jeune fille innocente avant son mariage et pour ainsi humilier l'époux qui découvrira le soir de la nuit de noces que sa jeune épouse n'est finalement pas si vierge que cela. Mais Valmont a une autre conquête en tête, il s'agit d'une dévote très fidèle à son mari qui s'appelle la présidente de Tourvel et il espère la séduire. Alors j'ai choisi, quant à moi, de présenter cette œuvre en raison de sa grande cruauté. C'est une œuvre qui met en scène, à travers toutes ces lettres échangées, la violence morale de deux personnages, sans pitié, sans scrupules, qui agissent pour détruire, pour vaincre leur proie, derrière des apparences de grand raffinement, de grande civilité. Alors, j'avais étudié quand j'étais en seconde la comédie de Molière, Don Juan, qui mettait en scène un libertin, et je trouvais intéressant de retrouver ce type de personnage, mais cette fois-ci dans une double version, à la fois féminine et masculine, masculine avec Valmont et puis féminine avec Merteuil. Et d'ailleurs, c'est ce personnage féminin de la marquise qui m'a amenée à choisir cette œuvre. Merteuil, elle fait partie de toutes ces héroïnes qui s'imposent par leur force de caractère et leur volonté de puissance, à une époque, le XVIIIe siècle, où les figures féminines sont d'ordinaire plutôt associées à des qualités de douceur, d'innocence, de tempérance. À l'inverse, la marquise de Merteuil, notamment dans sa lettre 81, explique comment elle s'est construite elle-même, seule, derrière un masque social, grâce auquel, en fait, elle affirme sa liberté. Ce qui m'a plu aussi, enfin, c'est le format de la narration épistolaire. Je trouvais intéressant de voir comment les différents points de vue des personnages se croisent grâce à la structure polyphonique. On entend aussi bien la voix cruelle de Merteuil quand elle s'adresse à Valmont, sa voix faussement maternelle quand elle s'adresse à Cécile, ou encore le ton impérieux de Valmont lorsqu'il s'adresse à Merteuil, ou son ton doucereux quand il s'adresse à la présidente de Tourvel. Et ce système narratif, pour le lecteur, est très troublant et surtout fascinant, puisqu'on observe les voix des libertins machiavéliques qui établissent leur stratagème sous le regard du lecteur.
Bien, alors vous avez expliqué que l'œuvre vous avait plu parce qu'elle était emblématique du libertinage. Pourriez-vous définir plus précisément cette notion, s'il vous plaît ?
Oui, le libertinage, c'est un mouvement de pensée qui est né au cours du XVIIe siècle. Il s'agit d'abord d'une posture intellectuelle de certains lettrés qui revendiquent leur liberté de penser face à l'emprise de la religion catholique, notamment. Le libertinage, donc initialement, c'est plutôt un libertinage d'esprit, mais se développe parallèlement à un libertinage de mœurs, qui est celui du libertin qui s'affranchit de toutes les règles de conduite prônées par la religion, notamment la fidélité dans le mariage, l'exclusivité amoureuse, la condamnation de la luxure ou encore la jouissance des sens.
Effectivement. Et ce qui vous a plu, vous l'avez dit, c'est la cruauté des personnages. Alors quel passage du roman vous semble emblématique de la cruauté de Merteuil ? Et est-ce que vous pourriez lire un extrait, s'il vous plaît ?
Oui, alors la lettre 80 que j'ai évoquée, où Merteuil explique comment elle est devenue cette marquise diabolique, mais il y a aussi la lettre 141 à la fin du roman, où la marquise donne un conseil terriblement cruel à Valmont afin qu'il rompe avec la présidente de Tourvel, et elle lui conseille à ce moment-là de répéter de manière incessante que ce n'est pas sa faute, sans même chercher à feindre un certain chagrin amoureux. Je vais vous lire le passage. Un homme de ma connaissance s'était empêtré comme vous, d'une femme qui lui faisait peu d'honneur. Il avait bien, par intervalle, le bon esprit de se sentir que, tôt ou tard, cette aventure lui ferait tort. Mais quoi qu'il en rougît, il n'avait pas le courage de rompre. Il passait ainsi sa vie, ne cessant de faire des sottises et ne cessant de dire après « ce n'est pas ma faute ». Cet homme avait une amie, qui fut tentée un moment de le livrer au public en cet état ridicule. Elle lui fit donc parvenir la lettre qui suit. « On s'ennuie de tout, mon ange, et c'est une loi de la nature. Ce n'est pas ma faute. Si donc je m'ennuie aujourd'hui d'une aventure qui m'a occupée entièrement depuis 4 mortels mois, ce n'est pas ma faute. Adieu, mon ange. Je t'ai prise avec plaisir, je te quitte sans regret. Je te reviendrai peut-être. Ainsi va le monde. Ce n'est pas ma faute. » Et finalement, en appliquant ce conseil, en répétant sans cesse « ce n'est pas ma faute » à la présidente de Tourvel, Valmont va la condamner à mourir de chagrin à la fin du roman.
Bien. Alors dans ce passage que vous venez de lire, Merteuil conseille à Valmont d'être absolument monstrueux. Elle est elle-même d'ailleurs monstrueuse. Pensez-vous que cette monstruosité ait un sens moral ?
Alors oui, on peut lire l'œuvre dans une dimension morale. D'une part, je l'ai dit tout à l'heure, le roman a été publié en 1782, donc à la veille de la Révolution française, et Laclos, même s'il n'est pas un philosophe des Lumières, comme certains philosophes, s'exprime avec une certaine aigreur contre la société du XVIIIe siècle et cette noblesse de laquelle il est lui-même issu. Et donc à la veille de 1789, certains ont lu l'œuvre comme une critique de l'artificialité de la cour et de toutes les mœurs aristocrates, qui sont vaines et cruelles. Et d'autre part, on peut aussi lire l'œuvre en fait comme un apologue qui présente le contre-exemple des comportements adoptés en société, ou même comme une réflexion critique sur l'éducation trop naïve des jeunes filles au XVIIIe siècle, notamment à travers la figure de Cécile de Volanges.
Alors nous allons continuer à tisser des liens entre le roman et les autres arts. Vous savez que le roman a inspiré de nombreuses adaptations cinématographiques. Lesquelles avez-vous vues et qu'en avez-vous pensé ?
Alors j'ai pu voir deux versions du roman au cinéma, enfin en adaptation cinématographique. La première, c'est celle de Stephen Frears, qui a été réalisée en 1988 avec John Malkovich dans le rôle de Valmont et Glenn Close dans le rôle de Merteuil. Et la seconde, c'est celle de Milos Forman, qui a été réalisée un an plus tard, en 1989, avec Colin Firth dans le rôle de Valmont et Annette Bening dans le rôle de Merteuil. Les deux versions m'ont plu et m'ont semblé respecter très rigoureusement l'œuvre de Laclos. Cependant, on voit que les deux réalisateurs ont cherché à insister sur des aspects différents de l'œuvre. Stephen Frears, lui, il a cherché à insister sur la cruauté en fait des personnages, en choisissant notamment deux acteurs habitués des rôles de méchants, dont le physique sert cette mise en avant de leur perversité. Et d'ailleurs, le duo Glenn Close-John Malkovich fonctionne très bien. En revanche, dans la version de Milos Forman, les choses sont plus subtiles, puisque les deux acteurs sont plus jeunes. À certains égards, ils sont aussi plus beaux. Et du coup, le réalisateur insiste davantage sur l'apparence flatteuse de ces deux figures, dont on ne peut pas en fait se méfier de prime abord.
Oui, alors chez Milos Forman, vous l'avez dit, les proies peuvent se faire avoir. Est-ce que dans la version de Stephen Frears, est-ce que vous avez remarqué des détails ou des passages où le réalisateur met en évidence cette comédie sociale jouée par les personnages ?
Oui, au début, à la fin du film de Stephen Frears, effectivement, le réalisateur insiste sur le caractère théâtral de l'histoire. Valmont et Merteuil apparaissent à l'écran comme des comédiens qui se préparent en coulisses, ils sont maquillés, habillés par leurs domestiques. Et c'est ainsi que le réalisateur insiste sur l'artificialité de cette société du 18e. Et à la fin, en revanche, on voit Merteuil se démaquiller après sa disgrâce. Elle nettoie nerveusement son visage comme une comédienne qui aurait été huée sur scène. Et d'ailleurs, la scène de sa disgrâce se déroule dans un théâtre.
Tout à fait. Alors pour terminer, une dernière question. Si vous étiez éditeur, quelle couverture proposeriez-vous pour éditer cet ouvrage ?
Alors, j'ai pensé que peut-être qu'on pourrait prendre comme couverture le tableau de Fragonard qui s'appelle « Le verrou », par exemple. Sur ce tableau, on voit un homme qui enlace dans un mouvement assez fougueux une jeune femme qui se trouve comme prisonnière de ses bras, et le jeune homme ferme au bout du bout du doigt un verrou, et on voit sur l'autre partie du tableau un lit défait qui insiste sur l'érotisme de la scène. Cette scène, elle pose question car on doute du consentement de la jeune fille, et on sait d'ailleurs que le tableau aurait dû s'intituler « Le viol » initialement, et donc il peut tout à fait illustrer à la fois le viol de Cécile de Volanges par Valmont, ou encore le moment où Tourvel finit par céder aux avances de Valmont, et puisqu'elle n'a plus la force de résister.